I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Cette semaine, dans La Loupe, vous l'avez compris, on casse un peu nos codes pour vous aider à prendre de la hauteur sur l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à Anne-Rose Enchère, directrice déléguée de la rédaction. Alors les lecteurs de l'Express la connaissent bien. À travers ses éditos, elle s'applique à retrouver le sens des mots dans notre société. Salut Anne.
Bonjour Xavier.
Alors ensemble, on va ausculter un mot qu'on a beaucoup entendu pendant cette campagne électorale et qui va nous aider à comprendre le vote des Français.
Le populisme, c'est une menace pour la démocratie.
Est-ce que nos politiques sont tous devenus populistes ?
Nous sommes des vrais populistes.
Les populistes,
populistes, populisme.
Populisme, on va commencer par la définition littérale. J'ai apporté un dictionnaire, le petit Robert en l'occurrence. Alors je cherche P. Populisme, nom masculin, entre parenthèses souvent péjoratif, discours politique s'adressant aux classes populaires, fondé sur la critique du système et de ses représentants.
Oui, c'est vrai, ça existe encore, c'est une réalité, mais en fait, dans la conversation publique et politique, c'est devenu un mot complètement fourre-tout, c'est très imprécis, et en même temps, c'est insultant, et ça fait quand même beaucoup pour un seul mot.
Oui, alors si on reprend tes critiques dans l'ordre, pourquoi tu dis qu'il est imprécis ?
Parce que vous avez de tout. Populisme, c'est d'abord le vote des extrêmes, mais c'est, j'ai entendu parler de populisme sanitaire, j'ai entendu parler de populisme géopolitique, vous pouvez parler de populisme pour des options, on va dire, souverainistes, la volonté de remettre des frontières, douanières. On a entendu parler de populisme pour le Brexit. En fait, populisme, c'est quelque chose, généralement, qui sert à regrouper tout ce qui déplaît en majorité, on va dire, à l'élite. Et donc, il y a une espèce de réflexe un peu paresseux, à mon avis, de paresse de savoir et d'aller regarder plus près, de mettre tout ça sous un terme qui est quand même franchement pas agréable et qui, en plus, a le défaut, pour moi, en tant qu'insulte, d'avoir la racine peuple dedans. Donc, quand vous prenez un mot pour disqualifier tous les diagnostics qui vous déplaisent avec le mot peuple dedans, vous êtes quand même un petit peu dans une espèce de syndrome de la tourette géant envers les classes populaires.
Et toi, comment tu expliques le dévoiement de ce terme ?
Je pense que la recomposition du paysage politique fait qu'on l'emploie de plus en plus souvent. Si on s'arrête deux secondes, depuis 2017, il y a eu un chambardement total qui est en train de continuer. On est passé d'une opposition classique gauche-droite qui ne satisfaisait plus les Français, donc ils l'ont envoyé balader, pour quelque chose dont on s'aperçoit en fait que ça se reconstitue autour d'un candidat, en l'occurrence président de la République, du centre extrêmement large, et que autour de lui, il y a un vide. Et après, on arrive sur des candidats plus radicaux, plus aux extrêmes. Et donc, il y a une espèce d'opposition désormais systématique entre une espèce de camp de la raison qui s'auto déclare ainsi, et puis d'un vote de contestation ou de colère qui se retrouve aux marges et disqualifié par les représentants de sa colère. Sauf que, en vérité, il peut y avoir, quoi qu'on pense de ces représentants-là et de ces candidats et candidates-là, il peut y avoir un diagnostic qui, lui, ne mérite pas tant de disgrâce et ne mérite pas d'être disqualifié à ce point. Et donc, finalement, généralement, on jure qu'on a compris la leçon de cette colère au soir des campagnes et des élections. Et puis après, quand on est au pouvoir, finalement, on met tout ça de côté en se disant « c'est pas raisonnable ». Et en plus, en se rassurant avec cette idée que cette colère est en partie injustifiée et qu'en fait, c'est une phrase qu'on entend souvent, la France est un paradis peuplé de gens qui y croient être en enfer. C'est-à-dire qu'en fait, ils se croient malheureux, ils se croient pas si bien lotis, mais ils se trompent sur le diagnostic de leur propre vie, quoi.
Ce que tu dis, c'est qu'en collant l'étiquette populiste, on s'empêche de réfléchir.
Oui, on disqualifie le diagnostic de la personne qui ne pense pas comme soi. Et je ne dis pas qu'il faudrait considérer tout ce que cet électorat pense comme parole d'évangile, comme si tout d'un coup, il y avait un bon sens populaire, une common decency qui serait magnifique face à la corruption des élites ou à leur égoïsme. Je n'y crois pas du tout. Mais je pense qu'en revanche, c'est dans la mission, notamment des élites, de faire cette effort de représenter les intérêts des autres, puisque quelque part elles doivent justifier leur privilège d'influence, leur privilège d'avoir voix au chapitre et souvent de pouvoir influencer le cours des choses par le souci de l'autre et la prise en compte de l'intérêt des autres. Et c'est quelque chose, j'essaie de le raconter dans mon livre, qui m'a beaucoup taraudée, moi, en tant que journaliste. Les journalistes, nous sommes censés appartenir à ce qui s'appelle les grands corps intermédiaires et donc d'intercéder entre le peuple et les puissants, enfin le peuple quel qu'il soit, quoi, les citoyens et les puissants.
Dans ton livre, justement, tu as une manière très personnelle de décrire les corps intermédiaires.
Oui, je dis que c'est quasiment comme les enfants qui prennent les choses au premier degré. Je m'imaginais des corps comme ça qui font pont de leur chair et de leurs os pour constituer l'espèce d'architecture intime des sociétés. On sait
un,
que
un
les...
Un pont entre les peuples et les pouvoirs.
Oui, entre les peuples au sens large et les pouvoirs et les élites, que, comme les syndicats d'ailleurs avaient cette fonction également, comme les magistrats également. Et ces ponts-là de la société qui font que tout fonctionne nécessitent de ne pas être d'un côté, parce que sinon on est des ponts-levis. Et en fait, on augmente les fractures de la société. Donc, encore une fois, je pense que l'emploi du terme, systématiquement, l'emploi du terme populiste est une rupture de contrat pour un journaliste.
À ce propos, quand on préparait l'épisode, tu me disais qu'il y avait un très bon exemple récent, c'était la polémique sur les cabinets de conseil.
Ils s'appellent McKinsey, Capgemini ou PricewaterhouseCoopers. Les cabinets de conseil, ces firmes souvent peu connues du grand public, n'ont jamais eu autant d'influence au plus haut de l'État, au point de peser sur les décisions politiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui une commission d'enquête du Sénat. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'1 milliard d'euros à des cabinets de conseil, des dépenses qui ne cessent d'augmenter.
La polémique sur les cabinets de conseil, elle peut être intéressante. D'ailleurs, ce n'est pas censé être une polémique. Si notre débat démocratique était serein, on aurait simplement discuté des arguments, d'éventuellement savoir exactement de quoi ce recours incessant au cabinet de conseil était le symptôme. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez en effet quelques excités qui vont caricaturer, rentrer dans une opposition manichéenne, qui vont mentir parfois, exagérer, caricaturer encore une fois ce débat. Et en face, plutôt que de débattre avec sérénité, les radicalisés du camp du bien ou de la raison, comme je les appelle, se servent de ces excités-là pour dire « vous voyez, l'ensemble de cette polémique est totalement populiste ». Et donc, à la fin, vous êtes complètement confisqués, alors que c'est quand même un débat qu'on pourrait normalement avoir de façon sereine dans une démocratie apaisée. Et ça n'est pas l'état de notre démocratie actuellement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, maintenant qu'on a posé le constat, On peut faire quoi, Anne ? Est-ce qu'on bannit les termes populiste et populisme du débat public ?
On pourrait faire, c'est vrai, comme dans ces jeux pour enfants qu'on appelle tabous, où on est obligé de décrire quelque chose sans employer un certain nombre de mots. Mmh. Il faut avoir des trésors d'inventivité pour aller faire deviner ce qu'on essaye de dire. Et là, je pense qu'on serait obligé d'être un peu plus précis sur ce qu'on veut décrire. Parce que de temps en temps, en effet, on pourrait parler de démagogie, mmh. on pourrait parler parfois de xénophobie, mais de temps en temps, on serait aussi obligé de reconnaître qu'il n'y a peut-être pas d'absurdité ou peut-être pas de scandale dans certaines requêtes. Et je pense que pour ce faire, ça nécessite d'accepter encore une fois de penser non pas contre soi, il faut jamais être dans la haine de soi, mais parfois malgré soi. Et de toujours se demander, bon bah moi je pense ainsi, mais est-ce qu'il n'y a pas des arguments pour penser le contraire et qu'est-ce qui motive l'autre à penser autrement que moi ?
Et comment on peut réconcilier le peuple et les élites d'après toi ?
Moi je pense qu'on peut réconcilier les gens en faisant de la politique. Mmh. Voilà, c'est la seule chose qui marche. C'est finalement, ce qui serait extraordinaire, c'est que le système au sens large soit celui qui prenne en compte le diagnostic populaire, voire même parfois le diagnostic anti-système. Parce que c'est ainsi que les démocraties fonctionnent vraiment et sont matures. Si on laisse ce diagnostic, ces revendications-là, se faire aux marges de notre système démocratique et gonfler les voiles de candidatures aventureuses, eh bien, on risque de faire gonfler cette colère jusqu'à ce qu'elle se mette en capacité d'être majoritaire dans les urnes et auquel cas de l'emporter.
Tu dis qu'il faudrait faire ou refaire de la politique. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité des prochains élus.
C'est absolument la responsabilité des prochains élus. Je ne dis pas qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse la politique, le projet de Marine Le Pen. Ce serait complètement absurde et ce serait un déni de démocratie, pour le coup, si c'est lui qui est élu. Mais je pense qu'il faut intégrer une partie du diagnostic. Ou alors faire des coalitions nationales. C'est ce qu'a fait, par exemple, la Suède, les sociodémocrates de Suède. Alors peut-être, ils sont allés très loin. Peut-être que ce n'est pas notre tradition politique, que c'est sur la politique d'immigration. Ils ont vraiment resserré les boulons un point quand même très fort, ça a fait s'effondrer l'extrême droite là-bas. Mmh. Je ne sais pas si c'est notre solution et si c'est sur ce sujet-là, mais en tout cas, il faut quand même parfois s'inspirer des modèles étrangers.
Il faut regarder les exemples à l'étranger, mais tu rappelles aussi souvent qu'il faut regarder l'histoire.
Oui, De Gaulle. Il faut toujours regarder De Gaulle, Xavier Yvon, toujours. Mais c'est vrai que là, dans le cas d'Emmanuel Macron, en plus, s'il est élu avec, en ayant réussi à faire 28% du score au premier tour, ce qui n'est vraiment pas mal pour un président sortant, ça peut, on va dire, faire taire les craintes qu'on pouvait avoir légitimement d'une autorité politique un peu affaiblie qui aurait suivi une élection pluricraque ou même Marine Le Pen au premier tour. Là, quelque part, il va être relégitimé. Et il pourrait, s'il en a l'audace, s'il en a la volonté, faire un petit peu ce qu'a fait De Gaulle en 1958, à savoir, sur l'Algérie en l'occurrence, décider quelque chose qui allait quasiment à l'encontre de ce que voulait son propre électorat. Parce que le général de Gaulle avait décidé en son âme et conscience à l'époque que c'est ce qu'il fallait faire pour la cohérence et la cohésion de la nation française. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron sera tenté par cette voie qui est une voie difficile ? Mais il me semble que c'est un petit peu la dernière chance pour le système démocratique tel qu'on le connaît de sauver ses fesses avant la prochaine échéance. Ou alors il y aura une recomposition politique totale que nous ne voyons pas encore, ce qui est possible aussi, hein, objectivement.
Populisme, je suis sûr que nos auditeurs l'entendront d'une oreille neuve désormais grâce à toi, Anne. Merci beaucoup.
Merci.
Anne Rosenchère, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Je rappelle qu'on peut lire tes éditoriaux dans le magazine et sur notre site internet. Tu as aussi rassemblé tes réflexions sur ces mots qui nous enferment dans ton dernier livre, Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire. Il est également question de progressisme, de vivre ensemble. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la loupe. Pour être sûr de ne rater aucun de nos épisodes, vous connaissez la formule. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Apple Podcast ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Cros, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.